Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de la formation à la tempérance, l'importance d'acquérir la tempérance, particulièrement en éducation. Mais à partir de l'éducation, vous verrez très rapidement l'importance de la tempérance pour les adultes. L'intempérance, les péchés contre la tempérance, ne sont pas les péchés les plus graves. Ce sont de plus les péchés qui suivent le plus la pente de la nature et qui peuvent donc paraître naturels et donc bénins, négligeables. On dit d'ailleurs que la gourmandise est un péché mignon. Cependant, les conséquences de l'intempérance. Alors, je mets sous le terme intempérance, globalement, tous les vices opposés à la tempérance, donc la gourmandise, la luxure, encore plus, nous verrons pourquoi la prochaine fois, et l'impudeur, et puis les manques de modestie, bref, tout ce qui s'oppose à la vertu de tempérance. Les vices, donc, d'intempérance, quoique n'étant pas les plus graves, ont cependant des conséquences qui les dépassent largement. Je vais vous prendre un exemple. Mon frère était un assez grand artiste. Je me rappelle très bien, lorsque j'étais jeune, lui aussi donc, il avait pris des cours avec un peintre assez réputé. Et le peintre lui avait fait faire, pendant des heures, des traits droits à la plume, non seulement droits, mais tous égaux, des traits parallèles égaux, et des multitudes d'accolades. On aurait pu croire que ce professeur aurait commencé par la beauté, l'enseignement de la beauté. Mais si mon frère était un artiste, justement, il avait déjà le sens de la beauté. Et il s'agissait de lui permettre de la réaliser. Et donc il y avait un travail très humble, très modeste. Et il est évident qu'un trait mal fait n'est pas une catastrophe. Seulement, on s'est habitué, si on n'a pas appris, et pire encore, si on s'est habitué à ne jamais faire les traits comme il convient, alors la catastrophe est vraiment là, parce qu'on ne peut pas peindre quelque chose de beau, ni dessiner quelque chose de beau. Or, il était étonnant comment mon frère s'exprimait à travers ses dessins, qui étaient d'une très grande richesse. Je vous donne un autre exemple. Zhu Xiaomei est une grande pianiste internationale, enfin chinoise, mais de réputation mondiale, qui est considérée comme la meilleure interprète de Jean-Sébastien Bach. Très difficile à interpréter Jean-Sébastien Bach, parce qu'il a une musique très mathématique. Donc il est difficile d'y mettre de l'art. C'est donc exprès que je choisis cet exemple. Avec Bach, si on n'est pas un grand interprète, on fait facilement la machine à laver, ou la scie. Ce n'est pas que Bach soit mon plus grand musicien, loin de là, justement à cause de son côté mathématique. Zhu Xiaomei est donc réputée pour être la plus grande interprète de Bach. Et c'est vrai, elle met dans Bach une âme que j'ai jamais entendue au piano par d'autres interprètes. Or, dans sa jeunesse, elle dut interrompre ses études à cause de la révolution culturelle de Mao, enfin dite culturelle. Elle fut envoyée en un camp de travail dans une région où il faisait fort froid. Et elle réussit à se faire livrer son piano au camp de travail, parce qu'elle n'était pas en camp de punition, elle était en camp de travail. Elle avait mis le piano dans une petite dépendance de la ferme, et là, elle s'entraînait autant qu'elle pouvait. Tous les moments libres, elle s'entraînait. Elle jouait alors qu'il faisait 0 degré, et elle s'obligeait à jouer. Et elle travaillait particulièrement sa main gauche, qui est une main souvent délaissée. Et c'était un travail très humble, là encore, mais une persévérance, un courage. C'est grâce à cela qu'elle a pu devenir une grande interprète. Eh bien, il en va un peu de même quant à la vertu de tempérance. La tempérance peut paraître la partie la moins importante de la vie morale. Et cependant, lorsqu'on manque à la tempérance, ce n'est pas seulement qu'on ne peut plus être un grand interprète de Bach, ce n'est pas seulement qu'on ne peut plus, par ses dessins, exprimer une pensée riche, c'est que on perd le sens de la vie chrétienne. Et nous verrons, à propos de la luxure, qu'on perd même le sens de Dieu. C'est vous dire si c'est grave. Et donc il va falloir développer la vertu de tempérance. Bien sûr, elle est moins importante que la très belle vertu de justice. Elle est même inférieure à la vertu de force, qui est plus proche du bien commun. Mais je viens de vous expliquer pourquoi elle était importante, parce que sans elle, ces vertus deviennent impossibles. Et nous verrons également que l'humilité, qui est traitée par saint Thomas d'Aquin à la fin de son traité, puisqu'il la traite à propos de la tempérance, il pose la question, l'humilité est-elle une des plus grandes vertus ? Et il dit non, c'est pas la plus grande, mais c'est une des premières, parce que c'est une des plus nécessaires. Je tiens à vous faire remarquer, mes bien chers frères, à cette occasion, qu'il y a dans les vertus morales deux catégories de vertus, les vertus naturelles et les vertus surnaturelles. Je ne vous en ai jamais parlé encore, parce que je n'ai pas voulu vous faire trop de théories, mais maintenant, c'est le moment de voir l'importance de l'une et l'autre. La vertu naturelle s'obtient par la répétition des actes. À force, par exemple, de ne pas boire, on devient sobre. À force de jeûner, on devient tempérant sur la nourriture. La vertu surnaturelle, elle, est donnée par Dieu. Elle a le même objet. Dans nos exemples, c'est la boisson et la nourriture. Elle est donnée par Dieu. Elle a un tout autre niveau. Je vais vous donner un exemple. On raconte dans Les Volontaires de Saint-Loup, le livre. À propos, je vous recommande le livre de Zhu Xiaomei sur son parcours en Chine. Elle a beau être bouddhiste, c'est très très intéressant. Ça nous donne une très bonne leçon. J'en ai acheté plusieurs exemplaires, vous pouvez m'en commander si vous voulez. Je reviens donc au récit des volontaires de Saint-Loup. C'est la débâcle de l'armée allemande devant les communistes, les Russes, le Soviet, d'une cruauté effrayante. Une femme qui reçoit un officier nazi, c'est exprès que je dis nazi et non pas allemand, hein, parce que justement, il était pris par l'idéologie nazie, mauvaise donc. Propose ce qu'il est convenu d'appeler le repos du soldat, c'est-à-dire des joies de luxure, un plaisir de luxure. L'officier nazi refuse. Un officier du Führer ne s'abaisse pas avec des femmes alors qu'il a une mission à conduire. Il y a certainement dans cette attitude de l'orgueil, mais il y a de la chasteté. La chasteté naturelle, qui est une force, un dressage du corps. Bien autre, évidemment, est la chasteté d'un Abraham, qui, pour obéir à Dieu, a même pris deux femmes. Non pas, messieurs, que ce soit permis maintenant, mais c'était à l'époque pour la diffusion de la foi. On était dans l'Ancien Testament. Saint Augustin ou Saint Jean Chrysostome, je ne sais plus, dit qu'Abraham, avec ses deux femmes, était plus chaste que beaucoup de chrétiens non mariés. Parce que Abraham avait, en plus de la vertu naturelle de chasteté, il avait la vertu surnaturelle de chasteté qui visait très haut. Revenons donc à la tempérance naturelle et la tempérance surnaturelle. La grâce s'appuie sur la nature. Et il serait faux de croire qu'on peut élever des enfants dans la tempérance par la seule considération de l'amour de Dieu en négligeant ce qu'on pourrait appeler le dressage. Je ne parle pas seulement du dressage de l'enfant, il y a un dressage de l'adulte aussi, hein. Enfin, en principe, chez l'adulte, le dressage est achevé. Il faut faire pratiquer des actes de tempérance aux enfants pour leur faire prendre des habitudes. Ça n'est qu'une base, mais c'est une base nécessaire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se sont convertis regrettent d'abord d'avoir été loin de Dieu pendant des années, mais regrettent de ne pas avoir été éduqués à la tempérance, et cela leur cause de grandes difficultés pour pratiquer l'amour de Dieu. Et donc, parents qui m'écoutez, veillez à la pratique de la tempérance, à la pratique effective et dès le plus jeune âge. J'en arrive à la deuxième partie de ce sermon, qui est les rapports entre la tempérance et la raison. Saint Thomas, à chaque fois qu'il explique la tempérance, et encore une fois dans tous les domaines, quels qu'ils soient, dit qu'elle a pour règle la raison, les plaisirs sensibles réglés par la raison. La raison, c'est-à-dire la réflexion, la considération. La difficulté vient de ce que les plaisirs sensibles sont nécessaires. On ne peut pas les nier. D'ailleurs, saint Thomas a tout un article sur l'insensibilité. Est-ce un péché d'être insensible, c'est-à-dire de négliger les plaisirs? Il répond oui, c'est un péché. Parce qu'ils font partie de la nature humaine. Alors là, évidemment, les libéraux et les mondains se précipitent sur ce genre d'article. Vous voyez, il ne faut pas être insensible. Donc, et dans quoi se jette-t-il? Mais dans l'intempérance, sous prétexte de ne pas être insensible. Donc la difficulté vient de là. La nourriture est absolument nécessaire à tout le monde. Et il n'est pas possible de se nourrir sans y prendre un certain plaisir, ne serait-ce que de refaire ses forces, on est content. Et puis, la génération n'est pas nécessaire à tous les hommes, mais elle est nécessaire au genre humain dans son ensemble. Et ceux qui ont pour tâche d'engendrer des enfants, ce plaisir est absolument inévitable et il est nécessaire. On se marie pour avoir des enfants. Et donc la difficulté est que on ne peut pas faire fi des plaisirs, on ne peut pas les évacuer. Et donc il va falloir les régler par la raison. Et alors c'est pour cela que il y a peu de préceptes dans le Décalogue au sujet de la tempérance. Il y en a un. Contre la luxure, ne pas prendre la femme du prochain. Enfin, il est clair et net. Enfin, c'est peu. Il n'y a rien sur la gourmandise, rien sur la sobriété, pas grand-chose sur l'humilité, si avec le respect de Dieu. Pas grand-chose sur la modestie. Pourquoi cela? Mais parce qu'il ne peut pas y avoir une règle unique pour tout le monde. Et l'Église elle-même donne peu de règles. Pendant le carême, elle oblige au jeûne un seul repas par jour, mais elle ne dit pas quelle est la quantité de ce repas. Il n'est pas possible. Alors, sous prétexte qu'il n'y a pas de règles universelles, objectives, si vous voulez, et universelles qui s'appliquent à tous, il est très facile de conclure qu'on fait ce qu'on veut, alors que non. Il n'y a pas de règles parce que c'est à chacun de s'imposer sa propre règle en fonction de ses devoirs. Saint Benoît, qui demande le jeûne deux fois par semaine dès la fin du temps pascal, jusqu'au 14 septembre, où là c'est le jeûne tous les jours, est bien obligé de dire que si les travaux des champs pendant l'été ont été trop pénibles, il laisse toute liberté au père abbé d'adoucir le jeûne, voire même de le suspendre totalement. Il est bien obligé également de permettre ce qu'il appelle un petit coup de vin pour ceux qui ont fait des travaux trop pénibles, et puis notamment pour les cuisiniers. Et donc, il y a un lien entre la tempérance et la raison, et il va falloir former la raison, réfléchir. Il n'y a pas d'acte neutre, faites bien attention à cela, mes bien chers frères, il n'y a pas d'acte neutre. Un acte qu'on prétend neutre, c'est-à-dire qui n'est pas fait dans un but surnaturel, directement ou indirectement, est un péché. C'est un désordre. Il n'y a pas de zone entre les actes de charité, les actes gouvernés par la charité, et les péchés. Il n'y a pas de zone intermédiaire. On fait quelque chose pour le bien, ou on le fait en s'écartant du bien. On pense à Dieu, ou on pense à soi. Vous allez me dire, on ne peut pas y penser tout le temps. Mais c'est justement là le rôle de l'éducation, et puis après cela, pour nous, du progrès dans la vertu, c'est de penser suffisamment souvent à ce que nous devons faire pour servir Dieu, de manière à ce que cela devienne une certaine habitude, et que nous agissions sous l'effet de notre réflexion, même lorsque nous n'y pensons plus expressément. Par exemple, sur tous les objets, toutes les choses qui sont agréables, on doit se poser non pas une, mais deux questions. La première, ceci m'est-il utile? Et on peut très, très souvent répondre oui. La nourriture est utile, le téléphone est utile, la voiture est utile, etc. Mais il faut se poser une deuxième question. Ne me serait-il pas plus utile de m'en priver? Et là, on est obligé de constater que pour beaucoup de choses du superflu, la réponse est qu'il vaut mieux s'en priver, et que pour le nécessaire, il faut aussi un petit peu se priver du nécessaire. La preuve, c'est que l'Église nous fait jeûner pendant le carême, alors que la nourriture est nécessaire. Elle nous fait nous priver d'un peu du nécessaire pour quelque chose de plus grand. Alors, si on doit se priver même du nécessaire, un peu du nécessaire, pas tout, a fortiori du superflu. Saint Ignace dit qu'on doit sortir de table en ayant légèrement faim. Et il dit également que c'est quand on est rassasié qu'on doit prévoir la quantité de nourriture raisonnable, évidemment pas quand on est loin des repas, parce qu'à ce moment-là, on a faim et on est mauvais juge. Il y a donc toute une éducation, il y a toute une prudence personnelle, et personne ne pourra vous remplacer, mes bien chers frères. Que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'usage du mariage. Et le problème, c'est que la tendance naturelle est de toujours de satisfaire, puisque c'est naturel de ressentir le plaisir. La tendance naturelle est d'exagérer le plaisir. Et donc on se justifie à bon compte. On entend toujours dire « Ah, faites attention, ne jeûnez pas trop, c'est très dangereux. » On entend rarement dire « Faites attention, ne jeûnez pas trop peu, c'est très dangereux. » Or, jeûner trop est rare, et on s'aperçoit vite du danger. Jeûner trop peu est très fréquent, et on ne s'aperçoit pas du danger. Donc, ne croyez pas, mes bien chers frères, que le silence des prêtres soit une approbation au laisser-aller. Le laisser-aller, quand il est voulu, s'appelle la tiédeur. C'est un libéralisme qui ne lutte pas. Les libéraux aiment beaucoup la tiédeur parce qu'ils n'aiment pas la lutte. C'est l'esprit du monde qui justifie tout. Cette tiédeur, tous les auteurs spirituels le disent, et particulièrement saint Alphonse de Ligorie, bien qu'elle soit constituée de péchés véniels, mène plus bas que les péchés mortels. Parce que c'est une série de négligences. C'est comme sur la route, partant de pluie et avec de la boue, vous roulez derrière un camion et vous négligez d'avoir des essuie-glaces en bon état, vous finirez par avoir un accident, voire même un accident mortel si vous êtes sur l'autoroute, pour de simples essuie-glaces. Parce qu'on s'habitue. Et alors je tiens à vous dire, mes bien chers frères, que pour les enfants, c'est le père qui est la raison dans l'enfant. L'enfant ne sait pas quelle est la quantité de nourriture qui lui convient. Il ne sait pas ce qui est bon dans un bain chaud ou un bain froid. Il n'a pas l'expérience de la vie. Et c'est la raison du père qui est la raison de l'enfant. Et puis petit à petit, la raison de l'enfant doit prendre elle-même les choses en main, et la raison du père recule, enfin le père laisse de plus en plus de liberté, et c'est là qu'il y a toute une formation à l'importance du bon usage de la raison, on pourrait dire de la liberté, par rapport au plaisir sensible. Puis alors quand on arrive à l'adulte, et bien l'adulte se dirige tout seul, bon il prend quelquefois conseil, mais enfin il se dirige tout seul. Voilà ce que j'avais à vous dire, qui sont encore des grands principes sur la tempérance, mais qui sont très importants, parce que il faut pas se précipiter. Non, il faut réfléchir. Nous sommes au service de Dieu, et nous avons besoin des choses sensibles, mais nous avons tendance à les exagérer. Demandez cette grande sagesse à la Sainte Vierge, qui elle aussi a été au milieu du monde. La Sainte Vierge n'était pas dans un cloître, elle était au milieu du monde, et elle a eu cette grande sagesse. Alors demandez-la lui, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.